Dernier chapitre. Le lendemain, à 8 heures du matin, Ordynov, pâle, ému, non encore remis du trouble de la veille, frappait à la porte de Yaroslav Ilitch. Il ne reste à dire pourquoi il était venu, et il recula d'étonnement, puis s'arrêta comme pétrifié sur le seuil, en voyant Mourine dans la chambre. Le vieillard était plus pâle encore qu'Ordynov, il paraissait se tenir à peine sur ses jambes, terrassé par le mal. Cependant, il refusait de s'asseoir, malgré l'invitation réitérée de Yaroslav Ilitch, tout heureux d'une pareille visite. En apercevant Ordynov, Yaroslav Ilitch exulta, mais presque au même moment, sa joie s'évanouit et une sorte de malaise le prit soudain, à mi-chemin de la table et de la chaise voisine. Évidemment, il ne savait que dire, que faire. Il se rendait compte de l'inconvenance qu'il y avait à fumer sa pipe dans un pareil moment, et cependant, si grand était son trouble qu'il continuait à fumer sa pipe tant qu'il pouvait, même avec une certaine fanfaronnade. Ordynov entra enfin dans la chambre. Il jeta un regard furtif sur Mourine. Quelque chose rappelant le méchant sourire de la veille, dont le souvenir faisait frissonner et indignait encore Ordynov, glissa sur le visage du vieillard. D'ailleurs, toute hostilité avait disparu et le visage avait repris son expression la plus calme et la plus impénétrable. Il salua très bas son locataire. Toute cette scène réveilla enfin la conscience d'Ordynov. Il regarda fixement Yaroslav Ilitch, désirant lui faire bien comprendre l'importance de la situation. Yaroslav Ilitch s'agitait et se sentait gêné. « Entrez, entrez donc, prononça-t-il enfin. Entrez, mon cher Vassili Mikhailovitch. Faites-moi la joie de votre visite et honorez de votre présence tous ces objets si ordinaires. » Et de la main, Yaroslav Ilitch indiquait un coin de la chambre. Il était rouge comme une pivoine et si trouble et si gêné que la phrase pompeuse s'arrêta court et avec fracas il avança une chaise au milieu de la chambre. Je ne vous dérange pas, Yaroslav Ilitch, je voulais deux minutes seulement. Que dites-vous là? Vous me dérangez, Vassili Mikhailovitch, mais veuillez accepter du thé, s'il vous plaît. Qui est de service? Ah, je suis sûr que vous ne refuserez pas un autre verre de thé. Mourine fit signe de la tête qu'il ne refusait pas. Yaroslav Ilitch commanda au policier qui venait d'entrer, sur un ton des plus sévères, trois verres de thé, et ensuite vint s'asseoir près d'Ordynov. Pendant quelques minutes, il ne cessa de tourner la tête comme un petit chat de faïence, tantôt à droite, tantôt à gauche, de Mourine vers Ordynov et d'Ordynov vers Mourine. Sa situation était extrêmement désagréable. Évidemment, il voulait dire quelque chose, selon lui quelque chose de très délicat, au moins pour l'un des deux, mais malgré tous ses efforts, il lui était impossible de prononcer un mot. Ordynov aussi avait l'air gêné. À un moment, tous deux commencèrent à parler en même temps. Le taciturne Mourine, qui les observait avec curiosité, lentement ouvrit la bouche, laissant voir toutes ses dents. « Je suis venu vous dire, » commença Ordynov, « que, par suite de circonstances très désagréables, je me vois forcé de quitter votre appartement et... »« Ah, oh, comme c'est bizarre !» l'interrompit tout d'un coup Yaroslav Ilitch. J'étais hors de moi d'étonnement quand ce respectable vieillard m'a annoncé ce matin votre décision, mais... »« Il vous a annoncé ma décision ?» demanda Ordynov étonné en regardant Mourine. Mourine caressait sa barbe et souriait. « Oui, » confirma Yaroslav Ilitch. « Au reste, je me trompe peut-être, mais je puis vous jurer sur l'honneur que dans les paroles de ce respectable vieillard, il n'y avait pas l'ombre d'offense pour vous. » Yaroslav Ilitch rougit et maîtrisa avec peine son émotion. Mourine, comme s'il en avait assez de se moquer du trouble du maître de la maison, fit un pas en avant. Voici, votre seigneurie, commença-t-il en saluant poliment Ordynov. Vous savez vous-même, monsieur, que moi et ma femme serions heureux de tout notre cœur, et nous n'aurions pas osé dire un mot. Mais, monsieur, vous le savez, Voyez quelle est ma vie. Voyez que je suis presque mourant. Maureen caressa de nouveau sa barbe. Ordinov se sentait défaillir. Oui, je vous l'avais bien dit, il est malade. C'est un malheur. J'ai voulu le dire en français, mais pardonnez-moi, je ne m'exprime pas librement dans cette langue. C'est-à-dire... Ordinov et Yaroslav Ilitch se firent l'un et l'autre un petit salut en restant assis sur leur chaise, et Yaroslav Ilitch reprit aussitôt. D'ailleurs, j'ai interrogé en détail cet honnête homme. Il m'a dit que la maladie de cette femme... Ici, le délicat Yaroslav Ilitch fixa un regard interrogateur sur Mourin. C'est-à-dire notre patronne. Yaroslav Ilitch n'insista pas. Oui, la logeuse, c'est-à-dire votre ancienne logeuse, dit-il, s'adressant à Oldinov. Oh, voyez-vous, c'est une femme malade. Il dit qu'elle vous dérange dans vos travaux. Et lui-même, vous m'avez caché une circonstance très importante, Vassili Mihailovitch. Laquelle? Avec le fusil, prononça-t-il presque chuchotant et d'une voix où perçait avec l'indulgence une ombre de reproche. Mais, reprit-il hâtivement, je sais tout, il m'a tout raconté. Vous avez agi probablement en lui pardonnant son crime involontaire. Envers vous. Je vous le jure, j'ai vu des larmes dans ses yeux. Yaroslav Ilitch rougit de nouveau. Ses yeux brillaient, il s'agita sur sa chaise tout ému. Moi, c'est-à-dire, monsieur, nous, votre seigneurie, moi et la patronne, nous prions Dieu pour vous, commença Mourine en s'adressant à Ordinov. Tandis que Yaroslav Ilitch, ayant enfin dominé son trouble, le regardait fixement. « Mais vous le savez vous-même, monsieur, c'est une femme malade, sotte. Moi, je me tiens à peine. Mais je suis prêt, dit Ordinov impatient. Assez, je vous prie. Tout de suite, même si vous voulez. Non, monsieur, nous sommes très contents de vous. » Maureen s'inclina très bas. « Moi, monsieur, je voulais vous dire tout de suite la chose. Elle, monsieur, elle est presque une parente, c'est-à-dire une parente éloignée. Elle est ainsi depuis l'enfance, une tête exaltée. Elle a grandi dans la forêt comme une paysanne parmi les râleurs et les ouvriers d'usine. Et puis voilà, tout d'un coup, leur maison a brûlé, sa mère a péri dans l'incendie. » Son père aussi, soi-disant, et vous racontera des histoires. Moi, je ne m'en mêle pas, mais je dois vous dire que des médecins de Moscou l'ont examinée. C'est-à-dire, monsieur, qu'elle est complètement folle, voilà. Moi seul suis avec elle et elle avec moi. Nous vivons, prions Dieu et espérons. Mais... « Je ne la contredis jamais !» Ordinov avait le visage tout bouleversé. Yaroslav Ilitch regardait tantôt l'un, tantôt l'autre de ses visiteurs. « Mais non, monsieur, non !» reprit Mourine en hochant la tête avec importance. « Elle est ainsi. Sa tête est si folle qu'il faut toujours à son cœur un amoureux quelconque, son bien-aimé. Et moi, monsieur, j'ai vu... « Pardonnez-moi mes paroles stupides, » continua Mourine en saluant et essuyant sa barbe. « J'ai vu comment elle allait chez vous et que vous, votre seigneurie, vouliez unir votre sort au sien. » Yaroslav Ilitch devint pourpre et regarda Mourine avec reproche. Ordinov avait peine à se tenir sur sa chaise. « Non, monsieur... » C'est-à-dire, ce n'est pas cela. Moi, monsieur, je suis un simple paysan. Nous sommes vos serviteurs, ajouta-t-il en saluant très bas, et nous prierons Dieu pour vous, ma femme et moi. Quant à nous, que nous ayons de quoi manger, soyons bien portants, nous sommes satisfaits. Vous le savez vous-même, monsieur, ayez pitié de nous. Parce que, qu'arrivera-t-il, monsieur, quand elle aura encore un amant? Pardonnez-moi ce mot grossier. Vous êtes un gentilhomme, votre excellence, un jeune homme fier, ardent. Tandis qu'elle, vous le savez, c'est une enfant sans raison. Le péché est vite arrivé. Elle est robuste, moi je suis toujours malade, mais quoi, c'est déjà le diable qui s'en mêle. Moi, je lui raconte des histoires. Oui, monsieur, moi et ma femme prierons Dieu pour vous sans cesse. Et qu'est-ce que cela peut faire à votre excellence? Elle est jolie de soi, mais elle n'est après tout qu'une paysanne, une femme simple, mal lavée, sotte, bonne pour moi, un paysan. C'est pas une femme pour vous, monsieur. Ah, et comme nous prierons Dieu pour vous. Ici, Maureen s'inclina très profondément. Il resta ainsi longtemps, sans se redresser et essuyant sa barbe sur sa manche. Yaroslav Ilitch ne savait que faire. « Oui, ce brave homme, remarqua-t-il tout troublé, me parlait d'un malentendu quelconque qui existe, paraît-il, entre vous. Je n'ose le croire, Vassili Mikhailovitch. J'ai entendu dire que vous êtes encore malade, s'interrompit-il rapidement et très ému en remarquant le trouble d'Ordinov. Oui, combien vous dois-je ? Demanda brusquement Ordinov à Mourine. Que dites-vous, monsieur? Nous ne sommes pas des vendeurs du Christ. Pourquoi nous offensez-vous, monsieur? Vous devriez avoir honte. Est-ce que moi ou ma femme, nous avons fait quelque tort? Alors excusez. Mais cependant, mon ami, c'est étrange. Il a loué une chambre chez vous. Ne sentez-vous pas que, par votre refus, vous l'offensez? Intervint Yaroslav Ilitch, croyant de son devoir de montrer à Mounim l'étrangeté et la délicatesse de son acte. « Mais excusez, monsieur, que dites-vous, monsieur? Est-ce que nous sommes fautifs envers vous? Nous avons tout fait pour vous être agréable. Je vous en prie, monsieur, quoi? Est-ce que nous sommes des infidèles? Qu'ils vivent, partagent notre nourriture de paysan à sa santé. Nous n'eussions rien dit, pas un mot. » Mais le diable s'en est mêlé. Moi, je suis malade. Ma femme aussi est malade. Alors, que faire? Nous serions très heureux de tout notre cœur, mais... Ah, mais nous prierons Dieu pour vous, hein, moi et ma femme. De nouveau, Mourine salua très bas. Une larme parut dans les yeux de Yaroslav Ilitch. Il regarda Ordinov avec enthousiasme. Quel noble trait de caractère! Quelle sainte hospitalité garde le peuple russe! Ordinov toisa étrangement Yaroslav Ilitch de haut en bas. Et moi, monsieur, c'est cela précisément l'hospitalité, dit Mourine. Savez-vous? Oh, je pense maintenant que vous feriez bien de rester chez nous encore un jour, dit-il à Ordinov. Je n'aurai rien contre cela. Mais ma femme est malade. Oh, si je n'avais pas ma femme, si j'étais seul, comme je vous aurais soigné, je vous aurais guéri. Je connais des remèdes. Vraiment, peut-être resterez-vous quand même un jour de plus chez nous. Oh, en effet, n'y aurait-il pas un remède quelconque? Commença Yaroslav Ilitch. Mais il n'acheva pas. Ordinov, furieux, étonné, regardait Yaroslav Ilitch des pieds à la tête. Sans doute, c'était l'homme le plus honnête et le plus noble, mais maintenant il comprenait tout. Il faut avouer que sa situation était difficile. Il voulait, comme on dit, éclater de rire. En tête à tête avec Ordinov, deux amis pareils, sans doute Yaroslav Ilitch n'y eût pu tenir et aurait été pris d'un accès de gaieté immodérée, en tout cas, c'eût été fait noblement, et le rire éteint, il aurait serré cordialement la main d'Ordinov. Il se serait efforcé de le convaincre sincèrement que le respect qu'il a pour lui en est augmenté, et qu'en tout cas, il l'excuse, car, somme toute, oh, c'est la jeunesse. Mais, vu sa délicatesse, il se trouvait maintenant dans une situation très embarrassante. Il ne savait où se mettre. « Le remède ?» dit Mourine, dont tous les visages s'anima à la question de Jaroslavich. « Moi, monsieur, dans ma sottise de paysan, voici ce que je dirais, » continua-t-il en s'avançant d'un pas. « Vous lisez trop de livres, monsieur, je dirais que vous êtes devenu trop intelligent. Comme on dit chez nous, paysan, votre esprit a dépassé la raison. » « Assez !» interrompit sévèrement Yaroslav Ilitch. « Je m'en vais, » dit Ordinov. « Je vous remercie, Yaroslav Ilitch. Je viendrai vous voir sans faute, » promit-il en réponse à l'invitation de Yaroslav Ilitch, qui ne pouvait le retenir davantage. « Adieu, adieu !»« Adieu, votre seigneurie, adieu, monsieur !»« Ne m'oubliez pas, venez quelquefois nous voir !» Ordinov n'en écouta pas davantage, il sortit comme un fou. Il n'en pouvait plus, il était comme mort. Sa conscience se figeait, il sentait sourdement que le mal l'étouffait. Mais un désespoir glacial envahissait son âme, et il ne ressentait plus qu'une douleur sourde qui l'étouffait et lui déchirait la poitrine. À ce moment, il eût voulu mourir. Ses jambes fléchissaient sous lui, et il s'assit près d'une palissade, sans faire attention ni aux gens qui passaient, ni à la foule qui commençait à faire cercle autour de lui, ni aux appels et aux questions de ceux qui l'entouraient. Mais soudain, parmi les voix, Ordinov perçut celle de Mourine. Il leva la tête. Le vieux, avec peine, s'est effrayé un chemin jusqu'à lui. Son visage pâle était grave et pensif. Ce n'était déjà plus l'homme qui se moquait grossièrement de lui chez Yaroslav Ilitch. Ordinov se leva. Mourine le prit sous le bras et le fit sortir de la foule. « Tu as besoin de prendre tes effets, » dit-il en regardant de côté Ordinov. « Ne t'attriste pas, monsieur, » s'écria-t-il ensuite. « T'es jeune, il faut pas désespérer. » Ordinov ne répondit pas. « Tu es offensé, monsieur. T'es évidemment très fâché, mais tu as tort. Chacun doit garder son bien. » « Je ne vous connais pas, » dit Ordinov, « et je ne veux pas connaître vos secrets. »« Mais elle, » prononça-t-il, et des larmes abondantes coulèrent de ses yeux. Il les essuya avec sa main. Son geste, son regard, le tremblement de ses lèvres bleuies, tout faisait pressentir en lui la folie. « Je te l'ai dit, » répondit Mourine en fronçant les sourcils, « elle est folle !» « Pourquoi et comment est-elle devenue folle ? Tu n'as nul besoin de le savoir. Seulement, telle qu'elle est, elle est à moi. Je l'aime plus que ma vie et ne la donnerai à personne. Comprends-tu maintenant ?» Une flamme brilla pour un moment dans les yeux d'Oldinov. « Mais pourquoi à moi ? Pourquoi suis-je comme si j'avais perdu la vie ? Pourquoi mon cœur souffre-t-il ? Pourquoi ai-je connu Catherine ? Pourquoi ?» Mourine sourit et devint pensif. « Oh, pourquoi ? Je ne le sais pas, » prononça-t-il enfin. « Les femmes, ce n'est pas l'abîme de la mer. On peut finir par les comprendre, mais elles sont rusées. C'est vrai, monsieur, qu'elle a voulu me quitter pour aller avec vous, » continua-t-il pensif. « Elle en avait assez du vieux. Elle a pris de lui tout ce qu'elle a pu prendre. Vous lui avez plu beaucoup tout de suite. » « Mais vous, un autre, moi, je la contredis en rien. Si elle m'avait demandé du lait d'oiseau, je m'en aurais procuré. J'aurais fabriqué moi-même un oiseau donnant du lait, s'il n'en existe pas de pareil. Elle est vaniteuse, elle rêve de liberté, mais ne sait pas elle-même de quoi son cœur souffre. Il vaut mieux que les choses restent ce qu'elles sont. Eh, monsieur, tu es trop jeune. » Ton cœur est encore chaud. Écoute, monsieur, un homme faible ne peut pas seul se retenir. Donne-lui tout, il viendra de lui-même et rendra tout, même si tu lui donnes la moitié de l'univers. Donne la liberté à un homme faible. Il la ligotera lui-même et te la rapportera. Pour un cœur naïf, la liberté ne vaut rien. On ne peut pas vivre avec un caractère pareil. Je te dis tout cela parce que tu es très jeune. Qu'es-tu pour moi ? Tu es venu, tu es parti. Toi ou un autre, c'est la même chose. Je savais depuis le commencement ce qui arriverait. Mais il ne faut pas contredire. On ne doit faire aucune objection si on veut garder son bonheur. Tu sais, monsieur, on dit seulement comme ça que tout arrive, continuait à philosopher Bourine. Quand on est fâché, on saisit un couteau ou même on s'élance les mains vides et on tâche de déchirer la gorge de son ennemi. Mais qu'on te mette ce couteau dans la main et que ton ennemi découvre sa poitrine devant toi, alors tu recules. Ils entrèrent dans la cour. De loin, le tatar aperçut Mourine et ôta devant lui son bonnet. Il fixait un regard malicieux sur Ordynov. « Quoi ? La mère est-elle à la maison ?» s'écria Mourine. « À la maison ? Dis-lui d'aider à transporter ses effets. Et toi aussi, donne un coup de main. » Ils montèrent l'escalier. La vieille qui servait chez Mourine et qui était en effet la mère du portier rassembla les objets du locataire et en fit un grand paquet. « Attends, je vais t'apporter encore quelque chose qui t'appartient et qui est resté là-bas. » Mourine alla chez lui. Une minute après, il revenait et tendait à Ordynov un coussin brodé, celui-là même que Catherine lui avait donné quand il était malade. « C'est elle qui te l'envoie, » dit Mourine. « Allez, maintenant va-t'en et prends garde de ne pas revenir ici, » ajouta-t-il à mi-voix. « Autrement, ça irait mal. » On voyait que Mourine n'avait pas l'intention d'offenser son locataire, mais quand il jeta sur lui un dernier regard malgré lui, une expression de colère et de mépris se peignit sur son visage. Il referma la porte presque avec dégoût derrière Ordynov. 2 heures plus tard, Ordynov s'installait chez l'Allemand Spies. Tinichen poussa un « Ah !» en le voyant. Aussitôt, elle s'informa de sa santé et, ayant appris de quoi il s'agissait, immédiatement, elle s'employa à le soigner. Le vieil Allemand montra avec orgueil à son locataire qu'il se disposait précisément à aller remettre l'écriteau sur la porte cochère, car c'était juste aujourd'hui qu'expirait le délai de la location payée d'avance. Le vieux ne laissait jamais échapper l'occasion de vanter l'exactitude et la probité germanique. Le même jour, Ordynov tomba malade. Il ne quitta le lit qu'au bout de 3 mois. Peu à peu, il revint à la santé et commença à sortir. La vie chez l'Allemand était monotone et tranquille. L'Allemand n'avait pas un caractère difficile. La jolie Tinichen était tout ce qu'on désirait qu'elle fût, mais pour Ordynov, la vie semblait avoir perdu à jamais sa couleur. Il devenait rêveur, irritable, sa sensibilité était maladive et imperceptiblement, une hypocondrie très sérieuse, maligne, prenait possession de lui. Pendant des semaines entières, il n'ouvrait pas ses livres. L'avenir lui paraissait sombre. Ses ressources touchaient à la fin et il ne faisait rien, ne se préoccupait pas du lendemain. Parfois, son ardeur ancienne pour la science, sa fièvre d'autrefois, les images du passé créées par lui réapparaissaient, mais ne faisaient qu'étouffer son énergie. La pensée ne se transformait pas en action. La création s'arrêtait. Il semblait que toutes ces images prenaient exprès des proportions gigantesques dans ses rêves pour railler l'impuissance de leur propre créateur. Aux heures de tristesse, involontairement, il se comparait à ce disciple du sorcier qui, ayant volé la parole magique de son maître, ordonne au balai d'apporter de l'eau et s'y noie parce qu'il a oublié comment dire « assez ». Peut-être une idée originale entière s'éveillait-elle en lui. Peut-être deviendrait-il un des maîtres de la science. Jadis, du moins, il croyait. La foi sincère, c'est déjà le gage de l'avenir, mais maintenant, il lui arrivait de se moquer de soi-même, de sa confiance aveugle, et il n'avançait pas. 6 mois auparavant, il avait créé et jeté sur le papier l'esquisse d'une œuvre sur laquelle il fondait des espérances sans bornes. Cet ouvrage se portait à l'histoire de l'Église, et les conclusions les plus hardies étaient sorties de sa plume. Maintenant, il vient de relire ce plan. Il y réfléchit, modifie, l'étudie, cherche, et enfin le rejette, sans rien construire sur les débris. Mais quelque chose de semblable au mysticisme commençait à envahir son âme. Le malheureux sentait ses souffrances et demandait à Dieu sa guérison. La femme de ménage de l'Allemand, une vieille femme russe très pieuse, racontait avec plaisir que leur locataire priait et restait 2 heures entières prostré sur le seuil de l'église. Il ne soufflait mot à personne de ce qui lui était arrivé, mais par moments, surtout à l'heure du crépuscule, quand le son des cloches lui rappelait sa première rencontre avec elle, la tempête s'élevait dans son âme blessée. Il se rappelait le sentiment jusqu'alors inconnu qui avait agité sa poitrine quand il s'était agenouillé près d'elle, n'écoutant que le battement de son cœur timide et les larmes d'enthousiasme, de joie répandues sur le nouvel espoir qui traversait sa vie. Alors la souffrance de l'amour de nouveau brûlait dans sa poitrine. Alors son cœur souffrait amèrement, passionnément, et il semblait que son amour grandît avec sa tristesse. Souvent des heures entières, oubliant soi-même et toute sa vie, oubliant tout au monde, il restait à la même place, seul, triste, hochant, désespérant la tête et murmurant « Catherine, ma colombe chérie, ma sœur solitaire ». Une pensée affreuse commençait à le torturer. Elle le poursuivait de plus en plus fréquemment et chaque jour se transformait pour lui en certitude, en réalité. Il lui semblait que la raison de Catherine était intacte, mais que Mourine aussi avait dit vrai en l'appelant cœur faible. Il lui semblait qu'un secret la liait au vieux, mais que Catherine, ignorante du crime, était passée colombe pure en son pouvoir. Qui était-il? Il ne le savait pas. Mais il voyait qu'une tyrannie profonde, inéluctable, pesait sur la malheureuse créature sans défense, et son cœur se troublait et se remplissait d'une indignation impuissante. Il lui semblait qu'on montrait perfidement aux yeux de l'âme qui a recouvert la vue sa propre chute, qu'on martyrisait un pauvre cœur faible, qu'on lui expliquait la vérité à tort et à travers, qu'on le maintenait à dessein dans la cécité quand cela était nécessaire, que l'on flattait astucieusement son cœur impétueux et troublé, et que l'on coupait ainsi peu à peu les ailes d'une âme aspirant à la liberté, mais incapable de révolte ou d'un élan, et libre vers la vie. Ordinov devenait de jour en jour plus sauvage, et il faut reconnaître que ces Allemands respectaient sa sauvagerie. Il choisissait de préférence pour ses promenades lors du crépuscule et les endroits éloignés et déserts. Par un soir triste, pluvieux, dans une vilaine petite rue, il rencontra Yaroslav Ilitch. Yaroslav Ilitch avait beaucoup maigri. Ses yeux agréables étaient plus ternes et toute sa personne portait la marque du désenchantement. Il courait pour une affaire quelconque, ne souffrant pas de retard. Il était tout trempé, tout sale, et une goutte de pluie pendait d'une façon fantastique à son nez, très convenable, mais maintenant tout bleuit. De plus, il avait laissé pousser ses favoris. Les favoris, et aussi l'air de Yaroslav Ilitch, de vouloir fuir son vieil ami, frappèrent Ordinov. C'est curieux, ils blessèrent même son cœur, qui jusque-là n'avait pas eu besoin de compassion. Enfin, l'homme qu'il avait connu autrefois, simple, débonnaire, naïf, disons même ouvertement un peu bête, mais sans prétention, lui était plus agréable. Il est désagréable, en revanche, quand un homme bête, et que nous avons aimé, en raison même peut-être de sa bêtise, se met souvent à être intelligent. Oui, c'est vraiment très agréable. Mais la méfiance avec laquelle il avait d'abord regardé Ordinov s'effaça aussitôt, et il engagea très amicalement la conversation. Il commença par dire qu'il avait beaucoup à faire, ensuite qu'il y avait longtemps qu'il ne s'était vu, mais tout d'un coup, Leur conversation prit une tournure étrange. Yaroslav Ilitch se mit à parler de la fausseté des hommes en général, de la fragilité des biens de ce monde, de la vanité des vanités. Avec une indifférence marquée, il parla de Pushkin et de certains bons amis communs, avec aigreur. Enfin, il fit allusion à la fausseté de ceux qui se disent des amis, alors que la véritable amitié n'existe pas et n'a jamais existé. En un mot, Yaroslav Ilitch s'était devenu plus intelligent. Ordinov n'objectait rien, mais une grande tristesse s'emparait de lui, comme s'il ensevelissait son meilleur ami. « Ah, imaginez-vous, j'allais oublier de vous raconter, » dit tout à coup Yaroslav Ilitch, comme s'il venait de se rappeler quelque chose de très intéressant. « Il y a du nouveau, je vous le dis en secret. Rappelez-vous la maison où vous logiez ?» Ordinov tressaillit et pâlit. « Eh bien, imaginez-vous que dernièrement, on a découvert dans cette maison une bande de voleurs, c'est-à-dire des contrebandiers, des escrocs de toutes sortes, le diable sait quoi. On a arrêté les uns, on poursuit encore les autres. On a donné les ordres les plus sévères. Et le croiriez-vous ? Vous vous rappelez le propriétaire de la maison, un homme très vieux, respectable, l'air noble. Eh bien, fiez-vous après cela à l'humanité ? C'était lui, le chef de toute la bande. Yaroslav Ilitch parlait avec chaleur et prenait prétexte de ce fait banal pour condamner toute l'humanité. C'était dans son caractère. Et les autres ? Et Mourine ? Demanda Ordinov d'une voix très basse. Ah ! Mourine ! Non, c'est un vieillard respectable, noble. Mais, permettez, vous venez de jeter une nouvelle lumière. Quoi ? Est-ce que lui aussi serait de la bande ? Le cœur d'Ordinov bondissait d'impatience. D'ailleurs, comment dites-vous ? Fit Yaroslav Ilitch en fixant ses yeux éteints sur Ordinov, signe qu'il réfléchissait. Mourine ne pouvait pas être parmi eux. 3 semaines avant l'événement, il est parti avec sa femme dans son pays. Je l'ai appris par le portier. Vous vous rappelez ce petit tatar ?